Vous écoutez, on lit pour vous.
Qui parle à travers l'intelligence artificielle? Un texte de François-David Prudhomme, paru le 19 janvier 2026 dans la presse. François-David Prudhomme est chargé de cours et chercheur en intelligence artificielle. Je suis tombé par hasard sur une idée saugrenue qui circule sur les réseaux sociaux. Les intelligences artificielles seraient des canaux par lesquels s'exprimeraient des entités venues d'autres dimensions, voire, et je pèse mes mots, des civilisations extraterrestres. À première vue, l'hypothèse prête à sourire. Pourtant, si elle surgit avec autant de force, si elle séduit autant, c'est qu'elle répond à un malaise bien réel. Derrière cette croyance spectaculaire se cache une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus troublante. Qui parle à travers l'intelligence artificielle? Une parole sans visage. Dialoguer avec une IA, c'est faire face à une parole fluide, structurée, parfois étonnamment pertinente. Elle reformule des idées complexes, synthétise des débats, anticipe nos questions. Pourtant, derrière cette parole, il n'y a ni intention personnelle, ni vécu intérieur, ni conscience. Et c'est précisément cela qui déstabilise. Contrairement à un humain, l'IA ne sait pas ce qu'elle dit. Elle calcule la probabilité statistique des mots et des idées à partir d'immenses ensembles de données. Elle ne comprend pas le monde, elle modélise des régularités du langage. Autrement dit, le sens qu'elle produit n'est pas vécu, il est reconstruit. Or, culturellement, nous associons spontanément la parole à une présence. Quelqu'un parle parce que quelqu'un pense. Quand cette équation se fissure, l'esprit cherche une explication. Face à ce vide, l'esprit humain cherche instinctivement une cause. Historiquement, chaque fois que l'humanité a rencontré une parole qu'elle ne comprenait pas entièrement, elle l'a attribuée à une entité. Dieu, esprit, ange, démon. L'oracle de Delphes, le prophète inspiré, le médium spirit fonctionnaient tous selon le même principe. Une voix passait à travers. Lorsqu'une parole agit sans que sa source soit clairement identifiable, on lui invente une origine transcendante. L'intelligence artificielle réactive ce vieux réflexe anthropologique. Elle ne parle pas comme nous, mais elle parle quand même. Alors on se demande, qui parle? Mais la réponse la plus déconcertante est peut-être la plus simple. Personne. Quand le langage devient autonome, ce que l'intelligence artificielle rend visible, c'est un phénomène longtemps pressenti par les sciences du langage. Le sens ne dépend pas uniquement d'une intention individuelle. Umberto Eco rappelait que le sens n'est jamais contenu entièrement dans un émetteur, mais qu'il émerge d'un réseau de codes, de conventions et d'interprétations partagées. Lector in Fabula, 1979. L'IA pousse cette logique à l'extrême. Elle montre que des phrases cohérentes peuvent émerger sans conscience, simplement parce que le langage est déjà structuré collectivement. Ce n'est pas une pensée qui parle. C'est le langage humain, accumulé, condensé, mis en mouvement. On pourrait dire qu'elle agit comme un champ de résonance du langage collectif. Un lieu où les phrases, les idées, les récits circulent et se réorganisent sans passer par une conscience individuelle. Une parole qui n'a plus besoin d'un sujet unique pour exister. La fin d'un privilège. Ce déplacement est vertigineux. Depuis des siècles, nous accordons au sujet humain un privilège central. Penser et parler seraient indissociables d'une intériorité consciente. Or, l'IA produit des effets de pensée sans pensée vécue. Elle n'a pas d'âme, mais elle organise du sens. Elle n'a pas d'intention, mais elle influence nos raisonnements. C'est cette rupture qui déstabilise. L'IA ne possède pas de conscience, mais elle produit néanmoins des effets de pensée. Elle ne comprend pas comme nous, mais elle organise du sens. Elle ne vit rien, mais elle peut formuler des idées qui nous atteignent. Ce décalage crée une illusion métaphysique. Puisque le sens est là, nous supposons une âme. Puisque la parole est cohérente, nous imaginons une intention. Mais c'est peut-être notre conception du sens qui doit être révisée. Un miroir, pas un messager. Plutôt que de voir l'IA comme un canal vers l'invisible, il serait plus juste de la considérer comme un miroir extrême. Elle nous renvoie notre propre langage, mais débarrassée de la chaleur du vécu, de la lenteur de la pensée, des hésitations humaines. Un miroir si précis, si rapide qu'il finit par paraître étranger. Ce que nous appelons « voix venue d'ailleurs » est peut-être simplement le langage humain lorsqu'il cesse d'être attaché à un corps. Une étrangeté à apprivoiser. Faut-il s'en inquiéter? Oui, dans une certaine mesure. Non pas parce que des entités nous parleraient depuis un ailleurs inaccessible, mais parce que cette technologie met à l'épreuve nos repères les plus fondamentaux. Qu'est-ce qu'un auteur? Une pensée? Une voix? La question essentielle n'est donc pas « qui parle à travers l'IA? » Il ne faut pas céder à la mystique technologique. L'IA n'est ni un oracle, ni un prophète. Elle n'ouvre pas une porte cosmique. Elle ouvre plutôt une question vertigineuse. Et si le sens n'avait jamais eu besoin d'un esprit pour circuler? C'est une idée inconfortable, mais c'est peut-être là que réside le vrai défi de notre époque. C'était « Qui parle à travers l'intelligence artificielle? » Un texte de François-David Prudhomme, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse.
Cap sur la Lune, un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 janvier 2026 dans La Presse. L'exploration de la Lune connaît une renaissance depuis le début du 21e siècle, alors qu'elle avait pratiquement cessé après la rivalité américano-soviétique des années 1960 et 1970. La Chine, l'Inde et des entreprises privées américaines ont réussi des missions sur notre satellite, et ce n'est pas fini. La situation est très différente des années 1960, quand les États-Unis ont envoyé des astronautes sur la Lune, dit Kathleen Curley, du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes, CSET, de l'Université de Georgetown, à Washington. Plusieurs pays et plusieurs firmes ont des plans lunaires. La plus grande rivalité est sino-américaine. En septembre, le Sénat américain a tenu des audiences appelées « Levée de mauvaise lune » en référence à une chanson du groupe Creedence Clearwater Revival, « Bad Moon Rising », qui lui ont permis de conclure que la Chine était en train de gagner cette course. La NASA doit lancer Artemis II, une mission qui va faire le tour de la Lune en 2026. Elle inclut l'astronaute canadien Jeremy Hansen et pourrait décoller dès février. Ensuite, Artemis III allunira et la station orbitale lunaire Gateway sera en fonction plus tard dans la décennie. L'objectif est d'avoir une base lunaire habitée au cours de la décennie 2030. Mais Elon Musk, qui a une relation d'affaires avec le nouveau patron de la NASA, le milliardaire techno Jared Isaacman, fait pression pour que la priorité soit donnée à une base martienne. De son côté, la Chine vise un alunissage de taïkonautes d'ici 2030 et a commencé l'été dernier à tester la fusée Longue Marche 10 qui remplira cette mission. La Chine a été la première à rapporter des échantillons du pôle sud lunaire, explique Mme Curley, qui vient de publier une évaluation du programme spatial chinois. Les échéanciers du programme lunaire chinois ont été respectés jusqu'à maintenant. La Chine a lancé une dizaine de missions lunaires depuis 2007 et une exploration plus en profondeur du pôle sud de la Lune est prévue en 2026. C'est là que l'Empire du Milieu veut construire sa base avec la Russie dans les années 2030 parce qu'on y trouve de la glace essentielle à la production de carburant et d'oxygène. Sherbrooke et Toronto. Le Canada est très actif dans cette nouvelle course lunaire. Des firmes canadiennes fabriquent des instruments pour les missions lunaires privées des Américaines Firefly, Astrobotic et Intuitive Machines, prévues pour 2026, ainsi que Blue Origin, prévues en 2027. Toutes ces missions sont financées par la NASA. Firefly est la seule firme privée ayant réussi un alunissage en 2025. Le logiciel d'analyse d'images de NGC Aérospatial de Sherbrooke s'est rendu sur la Lune en mars 2025 sur la sonde Blue Ghost de Firefly. Il pourrait être à nouveau testé sur un deuxième vol de Firefly cette année et équipera le véhicule Astromobile Rover lunaire canadien qui pourrait être lancé en 2029. Le logiciel compare les images des cratères lunaires à celles de bases de données pour guider les alunissages et les rovers en l'absence d'un système GPS, explique Jean-François Hamel, VP des systèmes spatiaux chez NGC. D'autres caméras, télescopes et microscopes canadiens, fabriqués par Canadensis de Toronto, sont utilisés par Firefly, Intuitive Machines et Astrobotic. Ce sont notamment des caméras de soutien et pour des projets de recherche scientifique lunaire, notamment l'exploration minière, précise Christian Salaberger, PDG et fondateur de Canadensis. L'entreprise a été choisie par l'Agence spatiale canadienne, ASC, pour construire le rover de 2029 et est l'une des trois qui planche sur un plus gros utilitaire de l'ASC qui pourra transporter des charges d'une tonne lorsqu'il y aura une base lunaire. Toujours dans la ville reine, MDA Space, qui a construit les bras robotiques canadiens de la navette spatiale et de la Station spatiale internationale, travaille au bras robotique de la station Gateway. Il devra être beaucoup plus autonome à cause du délai de transmission, dit Holly Johnson, VP robotique et espace chez MDA. Comme Gateway sera souvent inhabité, Canadarm 3 sera en quelque sorte le maître des lieux. Il devra pouvoir entrer à l'intérieur. Myriam Lemelin, une géomaticienne de l'Université de Sherbrooke, fait de son côté partie des équipes scientifiques des missions Vertex et Viper de la NASA qui iront sur la Lune en 2026 et en 2027 grâce aux sondes d'Intuitive Machine et de Blue Origin. Elle participe aussi au développement du véhicule astromobile canadien de 2029. On veut recueillir les caractéristiques de la géologie, détecter la présence de glace et mieux définir la rugosité du sol, dit-elle. Toutes ces technologies canadiennes seront utilisables sur Mars. La Lune est un environnement beaucoup plus hostile, expliquent Christian Salaberger et Holly Johnson, parce que la poussière lunaire, appelée régolithe, est extrêmement abrasive. Les ambitions de l'Inde. L'Inde a aussi un programme lunaire ambitieux visant une mission habitée à la fin des années 2030. Nous avons été les premiers à prouver la présence d'eau sur le pôle sud de la Lune en 2008, dit Gurbir Singh, un informaticien britannique qui a publié en 2017 un livre sur le programme spatial indien. Cet exploit de la mission Chandrayaan 1 a été réussi grâce à un impacteur qui a généré de la poussière, ensuite analysée par un orbiteur. La troisième mission lunaire indienne, Chandrayaan 3, a réussi en 2023 à se poser et à faire fonctionner un rover près du pôle sud. Une mission en 2027 vise à ramener sur Terre des échantillons lunaires. Nous aussi sommes en concurrence avec la Chine, mais nous n'avons pas les mêmes moyens, souligne M. Singh. La NASA souffre de manque de fonds avec les coupes de l'administration Trump. Les démocraties semblent désavantagées pour des programmes aussi ambitieux qu'envoyer des astronautes et créer des bases sur la Lune. Le Nouvel Antarctique. Bleddyn Bowen, un politologue de l'Université de Durham, en Angleterre, qui a publié deux livres d'astropolitique, confirme l'avance de la Chine. C'est important, parce que le premier pays qui s'installera de manière durable sur la Lune aura un rôle important pour déterminer les règles, notamment le périmètre de sécurité autour des bases, note M. Bowen. Cela dit, l'implication des firmes privées donne une profondeur aux efforts lunaires américains. La Lune ne tombera jamais entre les mains des entreprises privées, selon lui. Au mieux, ce sera comme en Antarctique, des bases scientifiques, avance-t-il. Et, évidemment, du tourisme pour les riches. En savoir plus, source NASA, 20, nombre d'alunissages robotiques réussis sur la Lune, 26, nombre d'alunissages réussis sur la Lune. C'était Cap sur la Lune, un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 janvier 2026 dans La Presse.
Que doit-on arrêter de lire? Un texte de Thierry Morissette, paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir. Ces textes, dans leur ridiculité même, touchent peut-être au vrai malgré eux, à leur insu. Il y a quelques semaines de cela, je me suis retrouvé, entre deux examens, à perdre mon temps à fouiller dans la grande bibliothèque de bois pâle qui trône dans mon salon. Voilà que, en cherchant une œuvre qui saurait fournir un corps et une substance à ma procrastination, je suis tombé sur un minuscule texte au dos pas plus large qu'une pièce de 25 sous dont j'avais, en toute honnêteté, oublier l'existence. Dans son essai sur les femmes, Arthur Schopenhauer présente, sur une vingtaine de pages, le texte le plus misogyne que je suis venu à lire dans ma courte vie. Surprise, surprise, il n'avait pas beaucoup de succès avec les femmes. Dans des formulations tout aussi aphoristiques les unes que les autres, il aligne des remarques d'un sexisme qui m'a d'abord paru classique. Les femmes sont superficielles, idiotes, par nature destinées à obéir, incapables de réaliser de grandes choses. Ailleurs, un peu plus original, la débilité des femmes leur confère un enjouement enfantin. Le tout caractérisé par une féroce et un sarcasme tel que mon petit cerveau d'étudiant pseudo-woke en est resté stupéfait. Voyez-vous, il est franchement commun, dans tout parcours littéraire, de rencontrer des œuvres qui présentent des opinions reçues qui trahissent une socialisation qui contraste avec la sienne. Dans la plupart des écrits qui ont su traverser le temps, aussi éloignés de nous qu'ils puissent être dans tous les sens du terme, il reste qu'on en vient habituellement à surpasser ces dernières, ces billets qui semblent, dans l'étendue d'une œuvre, accessoires, et ce, de façon à principalement s'attarder à la capacité de ces textes à révéler et à explorer ce qui est et ce que peut être l'existence humaine. Mais sur ce coup-là, franchement, Schopenhauer, il m'a bien surpris. Il m'a proposé un essai si vide de toute argumentation habilement construite ou justifiée que j'en suis resté médusé. Je me suis retrouvé assis sur mon divan avec une bière de fin de session à la main, à me demander si je venais, à la place de procrastiner, de perdre mon temps. Parce que c'est une chose de lire un texte sur lequel une époque a laissé sa marque, mais c'en est une autre de se pencher sur une œuvre qui paraît être un pur produit social érigé dans la plus complète contingence et la plus vaine lubie. Et il semble parfaitement sensé de se questionner sur l'intérêt du second, sur la pertinence qu'il y aurait à se pencher sur une montée de lait vieille de 200 ans, sur une proposition comiquement abrutissante. Doit-on arrêter de lire ce genre de texte? Il y en a d'autres, plein d'autres. Non pas parce qu'ils seraient pervers ou dépassés, mais parce qu'ils seraient non pertinents, parce qu'ils seraient incapables de toucher à toute chose qui serait moindrement vraie ou même vraisemblable. Voilà toutefois que, en y pensant ne serait-ce qu'un peu, il semblerait plus que possible de voir en quoi ces textes, dans leur ridiculité même, toucheraient au vrai, malgré eux, à leur insu. Outre la valeur sociologique, historique, politique, herméneutique et autres hic qu'il serait possible de cultiver dans ses œuvres, et outre le fait évident que l'on ne puisse pas raisonnablement se prononcer sur la valeur d'un ouvrage avant de l'avoir lu, il reste que la lecture de ces textes nous mène aussi, de façon plus simple et, selon moi, plus intéressante, à se heurter à un exemple de la démesure possible chez l'être humain. Il nous révèle en quoi des individus, pourtant intelligents, peuvent écrire des choses qui ne le sont pas. Ils illustrent en quoi l'excellence, où qu'elle se présente, se manifeste toujours par éclat. Leur ridiculité nous ridiculise, ou du moins nous invite à le faire. L'autodérision, il me semble, n'est pas ce qui manque à la race humaine. Continuons donc à lire non seulement le bon, mais aussi le banal, le bancal et le mauvais, qui semblent tout aussi essentiels à considérer dans ce « connais-toi toi-même » commun dans lequel nous sommes tous, je l'espère, engagés. C'était « Que doit-on arrêter de lire ?» un texte de Thierry Morissette, paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir.
L'exercice vigoureux rend plus intelligent. Un texte de Richard Béliveau, paru le 15 mai 2023 dans le Journal de Montréal. Une étude rapporte qu'un exercice vigoureux augmente les taux sanguins de la protéine appelée BDNF, reconnue pour son rôle crucial dans les performances d'acquisition des connaissances du cerveau, dites cognitives. On estime que l'exercice physique régulier diminue le risque d'au moins 26 maladies différentes, notamment celles qui sont responsables de la majorité des décès au Québec, les maladies cardiovasculaires et pulmonaires, le diabète de type 2 et plusieurs types de cancers. Mieux encore, ces bénéfices de l'exercice ne sont pas limités aux fonctions physiques. Plusieurs études montrent en effet que le cerveau est lui aussi influencé positivement par l'activité physique régulière. Autant en termes de santé mentale générale, réduction du risque de dépression, par exemple, que des performances cognitives globales. Les mécanismes responsables de cette amélioration de la santé cognitive par l'exercice ne sont pas complètement élucidés. Mais plusieurs études suggèrent la participation du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF. Ce facteur de croissance joue en effet un rôle fondamental dans la création, la maturation et la survie des neurones, ainsi que dans la formation de synapses, les interconnexions entre neurones essentielles à la mémoire et aux performances cognitives. Cette importance est mise en évidence par l'existence de certaines mutations dans le gène BDNF qui causent, chez les patients porteurs de ces mutations, une réduction du volume de certaines régions du cerveau, des déficits de mémoire, une hausse de l'anxiété et de la dépression. Puisque de nombreuses études ont montré que l'exercice stimule la production de BDNF dans le cerveau, notamment au niveau de l'hippocampe, le siège de l'apprentissage, il est généralement admis que ce facteur de croissance contribue aux bénéfices cognitifs de l'exercice. Cependant, les types d'exercices les plus efficaces pour hausser les niveaux de BDNF demeurent mal caractérisés. Selon une étude récente, la stimulation maximale de la production de BDNF requiert une activité physique d'intensité assez élevée. Dans cette étude, les chercheurs ont recruté de jeunes adultes en bonne santé et les ont soumis à un programme d'exercice à vélo en deux temps. Une première partie, où les volontaires ont pédalé sur un vélo d'exercice à un rythme très tranquille pendant 90 minutes, suivie d'une seconde portion, constituée de 6 minutes d'exercice par intervalle, consistant à 40 secondes de pédalage à capacité maximale, entrecoupées de 20 secondes de repos. Avant, pendant et après chaque séance, les chercheurs ont mesuré les taux de BDNF dans le sang des personnes, ainsi que ceux d'acide lactique libérés par les muscles, soupçonnés d'agir comme un déclencheur de la synthèse de BDNF. Ils ont observé que pendant l'exercice à faible intensité, 90 minutes de vélo tranquille, les niveaux d'acide lactique ont légèrement augmenté dans le sang des personnes après environ 30 minutes, tout comme les quantités de BDNF dans leur sang. Mais pendant et après les 6 minutes de pédalage à fond de train, les taux de lactate, tout comme le BDNF, ont grimpé en flèche, atteignant des concentrations de 4 à 6 fois plus élevées qu'avant l'exercice. Ces résultats confirment donc que l'exercice, même léger, permet d'augmenter significativement les taux de BDNF, ce qui est un effet très positif pour le fonctionnement du cerveau. De plus, l'étude montre aussi à quel point ces bénéfices peuvent être maximisés par les exercices plus intenses et que l'inclusion, même occasionnelle, d'exercices un peu plus vigoureux représente une bonne façon d'améliorer sa santé cognitive. C'était « L'exercice vigoureux rend plus intelligent », un texte de Richard Béliveau, paru le 15 mai 2023 dans le Journal de Montréal.